incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ça, c'est une bonne chose, hein? Nous sommes ce qu'elle dit que nous sommes, nous avons ce qu'elle dit que nous avons et nous pouvons faire ce qu'elle dit qu'on peut faire. Amen. Donc, ça, c'est le but de nos rencontres ici. Donc, aujourd'hui, le titre du message, c'est « Comment être riche pour Dieu? » Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être riches? Hein? Vous voulez être riche? On parle de cela dans un moment où le monde parle de récession. Tout le monde parle des problèmes. Et c'est assez, combien de vous, cette semaine, au moins une fois, vous avez entendu le mot récession? OK, donc c'est presque tout le monde. Combien de vous, vous l'avez entendu plus qu'une fois? Hein? Tout le monde parle de crise économique, récession, etc., des problèmes. Mais, tu sais, moi j'ai eu une bonne nouvelle. Un de nos étudiants de l'école biblique qui habite à Montréal hier m'a donné un bon témoignage. Parce qu'au milieu de la crise économique, lui, il a eu une offre d'emploi, une promotion, et il est tout content, tout feu, tout flamme. Et moi, je me suis dit, waouh, tu vois, Dieu, il prend soin de son peuple. Et si on peut regarder à travers l'histoire de la Bible même, Dieu a toujours fait en sorte que son peuple soit béni, même dans les temps difficiles, dans les temps de crise. Il a souvent même fait un transfert de richesse pour son peuple. Mais c'est pas ça vraiment le message aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, le message, c'est comment être riche pour Dieu. Et quand on parle de la richesse pour Dieu, ce n'est pas juste une richesse qui est temporelle ou qui est financière. Ce n'est pas juste l'argent dont on parle, pas du tout. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus important que les richesses et les moyens naturels. On sait qu'on a tous besoin de payer les factures, on a tous besoin d'acheter de la nourriture pour les enfants. Moi, j'ai 5 enfants et c'est incroyable combien ces enfants mangent, et de plus en plus, parce que tu sais, mes garçons sont aussi grands que moi, presque. Ils ne manquent que quelques pouces. Et puis, là, je m'en veux dire, il y en a combien dans la maison maintenant? 4 qui portent les mêmes pointures, incluant le mien. 3 de mes garçons, ils peuvent porter mes souliers parce que c'est exactement le même pointure maintenant. C'est quelque chose, hein? Ces petits bouts de choux qui sont grands aujourd'hui. Et laisse-moi vous dire, leur appétit a grandi avec. C'est quelque chose. Et donc, ça prend un peu plus. Donc, mais Dieu est bon, il faut voir. Mais c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pas ça. On parle de comment être riche pour Dieu. Et il y a 2 versets de la parole qui sont venus dans mon esprit. Pendant que je méditais, je priais, je cherchais la face du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène? En fait, j'ai fait un message au complet. C'est déjà imprimé, hein, un autre message. Comment être positif dans un monde négatif. C'est un bon message aussi. Mais puis, c'est comme, non, c'est pas ça pour ce matin. C'est pas ça que je dois prêcher. Donc, j'ai fait un autre message. Hein, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment être riche pour Dieu. Il y a 2 passages de la parole qui sont venus dans mon esprit. Et je crois que c'est l'oracle de Dieu pour nous ce matin. C'est ce que Dieu veut nous communiquer. Donc, est-ce que vous êtes prêts à le voir avec moi? Donc, ces versets se trouvent en Luc chapitre 12, verset 15. C'est Jésus qui parle. Et je ne sais pas ce qui vous concerne, mais quand Jésus parle, je veux écouter. Vous? Jésus a dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Donc ça, c'est déjà une bonne exhortation, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance dans ce monde de tomber en amour avec l'argent, de tomber en amour avec ce que l'argent peut procurer. Et on sait que la Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, n'est-ce pas? Aimer l'argent, c'est dangereux, parce que Dieu nous appelle à l'aimer, et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, et de toutes nos pensées. Amen. Mais Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ça, c'est un message qu'on a besoin de communiquer avec le monde aujourd'hui, parce que le monde donne l'impression que, pour eux, celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. C'est un peu la mentalité du monde, n'est-ce pas? Celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. Mais la vie, on voit ici, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. C'est-à-dire qu'une personne, un homme peut avoir tout ce que l'argent peut acheter et quand même être misérable et quand même être pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, et qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver l'équilibre, parce que il y a des personnes qui vont dire, oui, tu vois, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, donc je ne veux pas avoir des biens. Il y a des personnes qui vont prendre les vœux de pauvreté, qui vont dire que même être pauvre, c'est pieux, et c'est une bonne chose de ne rien avoir. Ça, c'est pas bon non plus. Parce que si vous êtes pauvre et vous êtes toujours cassé, comment est-ce que vous allez pouvoir participer à toute bonne œuvre et aider les autres qui sont dans le besoin? Si on veut aider ceux qui sont malades, est-ce que ça va les aider de tomber malades avec eux? Quelqu'un qui est cloué au lit, qui ne peut plus sortir de son lit et qui est vraiment pas capable de bouger, est-ce que ça va l'aider si on tombe malade avec lui et on est cloué au lit à côté? Non! Qu'est-ce qui va aider si on reste en santé et on est capable de lui donner les soins qui sont nécessaires pour l'aider à revenir à la santé et regagner sa force? Et c'est la même chose quand on parle des richesses. Être pauvre n'aide pas les pauvres. Mais être prospère selon Dieu et riche pour Dieu et avoir un cœur qui n'est pas esclave de l'argent, et avoir un cœur qui n'est pas infecté par l'amour de l'argent, mais avoir un cœur qui est généreux et qui donne avec libéralité, c'est ça qui va aider les pauvres, n'est-ce pas? Vous me suivez? Mais on voit ici, verset 16, Jésus, il dit, et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici toute ma récolte et tous mes biens. » Voyez-vous l'attitude de cet homme? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de place pour toute ma récolte. Voici tous mes biens. C'est un homme qui est égoïste, n'est-ce pas? Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Écoute la langage de ce monsieur. Encore, comme j'ai dit à nos étudiants hier à l'école biblique, on parlait d'autre chose, mais j'ai dit, tu sais, j'ai une grande révélation, c'est que votre nombril n'est pas le centre de l'univers. On va le dire ensemble, mon nombril n'est pas le centre de l'univers. Je sais que c'est difficile à croire, et quand on est enfant, on n'est pas d'accord avec ça. Quand on est enfant, on pense que tout est à moi et tout est pour moi. J'ai même partagé, je vais le partager avec vous aussi ce matin, j'ai même partagé quand j'étais très jeune, je croyais en Père Noël, ok? Mon grand frère m'a dit une fois quelque chose du genre que mais c'est le Père Noël à tout le monde et j'étais vraiment fâché. J'ai dit, maman, Steve a dit que Père Noël, il est à tout le monde, mais c'est mon Père Noël, n'est-ce pas? C'est comme, ok. Encore, j'avais besoin d'apprendre que mon nombril, c'est pas le centre de l'univers. Il y a d'autres personnes dans le monde. Ok? On a besoin d'apprendre ces choses. J'ai un de mes enfants, une fois, qui a eu cette révélation, rendu à un certain âge, il a dit, mais tu sais, un jour, je me suis rendu compte que c'est pas mon film. C'est-à-dire que c'est pas la vedette du film de cette vie. Des fois, on pense que la vie, c'est juste un grand film, un tournage dont nous sommes la vedette principale pour le monde entier. C'est pas mon film, c'est pas mon Père Noël, c'est pas ma vie. Amen? Et en réalité, qu'est-ce qu'on va voir? C'est pas mes biens non plus. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai appartient à Jésus. Vous me suivez? Donc, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Soulignez ces mots, pour lui-même. pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et puis, vous pouvez souligner ces mots, riche pour Dieu. Voyez-vous le contraste pour lui-même, riche pour Dieu. Trois mots de chaque côté, mais quelle différence. Pour lui-même, riche pour Dieu. Dans quelle catégorie est-ce que vous tombez ce matin? Pourquoi est-ce que vous vivez ce matin? Est-ce que vous vivez pour vous-même ou est-ce que vous êtes riche pour Dieu? Bonne question, n'est-ce pas? Et je crois qu'on va voir dans la parole de Dieu aujourd'hui plusieurs choses qui vont nous aider à prendre la bonne décision et mener une vie qui est riche pour Dieu. Si on peut examiner qu'est-ce que Jésus a dit à propos de cet homme riche qui vivait pour lui-même, on voit quatre choses. Quatre caractéristiques de ceux dans ce monde qui vivent pour eux-mêmes. Les gens qui ne sont pas riches pour Dieu. Et je pense que j'aimerais commencer là, vous montrer quelles sont les caractéristiques de ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. La première chose qu'on voit, c'est qu'ils vivent pour le repos. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Oh, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi. » C'est quoi la motivation de ces personnes? Repose-toi. Et ce que nous allons voir, toutes ces quatre caractéristiques, on pourrait juste observer dans notre ville aujourd'hui, on pourrait faire le sondage, malheureusement, peut-être même dans notre église, et on va voir, c'est les choses qui sont vraiment le cœur, la motivation de notre société aujourd'hui. C'est quoi? C'est le repos, c'est une chose. OK? Est-ce que je suis contre le repos? Non. Dieu est pour le repos. En fait, Dieu veut qu'on entre dans son repos, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on soit reposé en lui, mais pour la bonne raison et de la bonne manière. Mais ces personnes qui sont égoïstes, qui vivent pour eux-mêmes, ils cherchent le repos à tout prix. Le repos est plus important que toute autre chose pour eux, dans le fond. Une autre chose, on voit, ils vivent pour leur estomac. Qu'est-ce qu'il a dit? Repose-toi, mange. La Bible dit, et si tu peux regarder cela en Philippiens, qu'il y a des gens qui vivent comme des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Leur Dieu, c'est leur estomac, la Bible dit. Ils ne vivent pas pour leur estomac. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Et juste la joie de manger. Et savez-vous quoi? C'est quelque chose. On doit manger pour vivre. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vivre pour manger. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne devrait pas avoir du plaisir en mangeant? Non, au contraire. Moi, je crois que c'est le plan de Dieu qu'on aime ça. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les fruits tellement sucrés et tellement juteux? Parce qu'il veut qu'on en jouisse de toutes ces bonnes choses. Dieu veut... Oh, je pense que... combien de vous êtes convaincus que lors des noces de l'agneau au ciel, qu'on va bien manger? Ça va être un repas extraordinaire et il n'y aura pas de vaisselle à faire après. Je crois. J'aimerais y croire. J'ai pas un verset de la parole pour le prouver, mais ça, c'est mon espérance. Hein? On aime faire la vaisselle, hein? Pendant des années, on avait juste un Kenmore à la maison. Vous savez c'est quoi un Kenmore? Vous avez entendu parler du Kenmore? C'est une marque qui vend chez Sears, disons. Ouais, mais le Kenmore qu'on avait à la maison, c'est que Ken, est-ce que tu peux faire un peu plus? Non, c'est Kenmore, non. Juste une petite farce, hein? Ma femme n'aime pas quand je dis ça parce que ça donne l'impression qu'elle m'a fait obligée de faire la veste. C'est pas vrai. Mais c'est quand même une bonne joke, hein. Mais il y a des gens qui vivent pour leur estomac. Ça, c'est leur passion, c'est ça. Je vis pour le repos, je vis pour mon estomac. Et l'estomac, c'est pas juste la nourriture. Ça représente les appétits de la chair. OK? Les choses qu'on peut faire. En fait, on voit dans la parole de Dieu de ne pas aimer le monde. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi qui est dans le monde? La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Ça, c'est le monde, le système de ce monde. Et donc, on voit, mon âme, repose-toi, mange. Et puis, c'est quoi l'autre chose? Ils vivent pour le divertissement. Mange et bois. Et on sait que souvent, quand on voit ce mention de boire dans la parole de Dieu, c'est dans le contexte d'une célébration, des fois de la débauche même. Les gens qui vont s'enivrer, les gens qui vont... C'est le party, c'est la célébration, mais c'est une célébration sans Dieu au centre. Et c'est ça le problème avec les gens qui vivent pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Amen. Le repos, les appétits de la chair, le divertissement. Est-ce que Dieu est contre le divertissement? Non, c'est pas grave. Hein? Vous voulez regarder un film à l'occasion, vous voulez avoir du fun, du plaisir. Mais n'est-ce pas vrai que notre société aujourd'hui tourne autour du divertissement? Presque tout. Les gens travaillent fort toute la semaine pour gagner assez d'argent, pour avoir le pouvoir de mettre son système de divertissement à jour. Je vais le dire encore. Le monde aujourd'hui travaille fort. Ils vont faire des longues heures de travail pour avoir le pouvoir de mettre leur système de divertissement à jour. Vrai ou pas vrai? Je veux un écran plat. Je veux un Blu-ray, je veux un Easy Boy où je peux me reposer, je veux une manette universelle, je veux le son qui va m'entourer, ou je veux le dernier ordinateur avec accès Internet le plus vite, le plus rapide, je veux ceci, je veux cela, ou... Mais c'est ça, posez la question. Pourquoi est-ce que les gens vivent aujourd'hui? Quels sont leurs buts dans la vie? Moi, je pense, et c'est pas arrogant qu'est-ce que je dis, mais je pense que je pourrais résumer pour un bon pourcentage de la société aujourd'hui quels sont leurs buts dans la vie. D'avoir un bon emploi, si c'est nécessaire. C'est-à-dire que s'ils ne gagnent pas le loto. Mais soit d'avoir un bon emploi qui va apporter un bon salaire. OK? Qui va donner assez d'argent pour acheter le plus grand quantité de jouets. OK? Puis, avoir un conjoint qui est attirant, n'est-ce pas? Qu'il soit marié ou pas, c'est peut-être pas important aujourd'hui, mais les femmes veulent avoir un mec qui est beau, et voilà, qu'est-ce que j'ai dit là? Ouais, des fois, c'est vrai aussi, hein? Mais les hommes veulent avoir une jolie femme, les femmes veulent avoir un beau homme, et ils veulent avoir, encore, assez de revenus pour acheter beaucoup de jouets, un conjoint qui est attirant, avoir les moyens pour prendre quelques vacances par année pour se reposer davantage, n'est-ce pas? Et puis avoir assez de sécurité financière que quand ils sont rendus à l'âge, ils ne peuvent plus travailler, ils vont à l'aise jusqu'au moment où ils vont être mis dans la tombe. Et entre-temps, bien entendu, belle maison, belle auto, et that's all. Pas mal un bon résumé de ce que les gens veulent dans la vie, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que les gens sont mécontents? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits? Parce que, laisse-moi vous dire, toutes ces choses que je viens de mentionner ne peuvent pas satisfaire l'âme. Si on vit pour soi-même et on n'est pas riche pour Dieu, on est vide. On est déçu. On est frustré. On court et on court et on court pour rien. Amen? Vous me suivez ce matin? Donc, et finalement, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est-à-dire, il vit pour le plaisir. Et 2 Timothée, chapitre 3, dit que dans les derniers jours, il y a des gens qui vont aimer le plaisir plus qu'ils aiment Dieu. Ils vont aimer le plaisir plus qu'ils aiment Dieu. Alors, c'est quoi le remède? Qu'est-ce que nous allons faire pour régler ce problème? Si on ne veut pas être quelqu'un qui vit pour soi-même et on veut être riche pour Dieu, qui veut être riche pour Dieu? Parce que regarde bien, la personne qui vit pour lui-même, qu'est-ce qui arrive? Comme Jésus a dit, cet homme, il a ramassé toutes ces choses, mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bon, on va prendre l'hypothèse, un homme a eu du succès, il a réussi, il a un bon emploi, bon salaire, un rire qui est assez impressionnant, assez d'argent mis de côté pour la retraite. Belle femme, grosse auto, 2 autos, 3 autos, même un bateau, une grosse maison. La vie est belle, tout est merveilleux, tout est beau, et il meurt. Qu'est-ce qu'il a? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour régler cela, pour être riche pour Dieu? Moi, il y a le deuxième verset qui est venu dans mon esprit, nous donne le remède. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5. Et j'aimerais le lire ce matin, parce que je crois que ça va nous aider à réaliser pourquoi nous sommes ici sur la terre. Bref, ces personnes qui vivent pour le repos, qui vivent pour l'estomac, qui vivent pour le divertissement, qui vivent pour le plaisir, en réalité, ils vivent pour eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est égoïste. Le contraire, c'est quoi? Le remède, c'est quoi? De vivre pour Jésus au lieu de vivre pour soi-même. Je me dis, je veux vivre pour Jésus. Pourquoi vivre pour Jésus? Est-ce que ça vaut la peine de vivre pour Jésus? Croyez-vous que ça vaut vraiment la peine de vivre pour Jésus-Christ? Si on veut être riche pour Dieu, il faut vivre pour lui. Et voici le verset clé, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, dans la parole vivante. J'aime tellement ce verset, dans cette version. Je l'ai mentionné encore hier à l'école biblique, mais verset 15 dit, « Et pourquoi est-il mort, en parlant de Jésus, pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste. » Encore 3 mots clés. Tout le monde dit, « Petite vie égoïste. » Soulignez ces 3 mots encore. « Petite vie égoïste. »« Petite vie égoïste. » 3 mots. « Petite vie égoïste. » Pour lui-même. « Petite vie égoïste. » Et si on veut changer cela, si on veut avoir une vie qui compte pour l'éternité, si on veut être riche pour Dieu, il faut vivre pour Jésus. Et remarque bien, une vie égoïste égale une petite vie. Je vais le dire encore, une vie égoïste, quand vous êtes le centre de votre univers, votre vie est assez petite. Vous êtes d'accord? Parce que vous êtes juste une personne. Comme on a dit, le monde entier, avec une exception mineure, ok? Le monde entier, c'est fait des autres. C'est-à-dire que le monde entier, on a quoi? 6 milliards d'êtres humains sur la planète Terre aujourd'hui? 6 milliards de quelque chose? Un peu plus, la population de la planète continue à croître. 6 milliards. Vous êtes important, mais vous n'êtes pas la seule personne qui est importante. Amen. Donc, une vie qui est égoïste, une vie qui est vécue juste pour soi-même, qui veut juste gagner le plus de jouets, une vie qui est vécue pour le repos, pour le divertissement, pour l'estomac et pour le plaisir seulement et uniquement, c'est une petite vie. Mais une vie qui est vécue pour Jésus, ça devient une grande vie. Quand vous vivez pour Jésus, vous commencez à réaliser votre raison d'être, pourquoi vous êtes sur la terre. Que Dieu a placé en vous les dons, les talents, les capacités. Dieu a choisi de vous utiliser pour toucher votre entourage. Il y a des personnes qui vous entourent qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Amen. Ils ont besoin de cet amour. Ils sont vides parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Ils sont pauvres parce qu'ils ne sont pas riches pour Dieu. Donc, pour les aider à devenir riches pour Dieu, encore, si on est pauvre, on ne peut pas aider les pauvres. Si on est malade, on ne peut pas aider les malades. Et si on n'est pas riche pour Dieu, on ne peut pas aider les autres à devenir riches pour Dieu non plus. Vous me suivez? Donc, voici la clé. On va renoncer à une petite vie égoïste. On va commencer à vivre pour Jésus-Christ et vivre de la bonne manière. Comment est-ce qu'on peut vivre pour Jésus-Christ? Il y a trois autres points que je veux vous donner aujourd'hui. Deuxième point, c'est vivez comme une nouvelle création. Vous voulez arrêter de vivre pour vous-même? Vivez comme une nouvelle création. C'est dans le même contexte de 2 Corinthiens 5, parce qu'il a dit que celui qui, pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une, quoi? Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous faire une différence dans votre monde? Voulez-vous être riche pour Dieu? Il faut vivre comme une nouvelle création. Et ce mot nouvelle création veut dire une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez à Jésus, vous n'êtes pas seulement pardonné. Vos péchés ne sont pas seulement effacés, mais le Seigneur prend votre cœur de pierre et il le remplace avec un cœur de chair. Vous êtes une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. C'est comme je dis, c'est la différence entre un ver de terre et une chenille. Le ADN est différent. Vous n'êtes pas juste un ver de terre qui est pardonné quand vous venez à Jésus-Christ. Vous êtes changé, régénéré, et vous êtes maintenant une nouvelle créature. C'est comme au lieu d'être un ver de terre, vous êtes une chenille. Est-ce que j'ai bien dit une chenille ou un chenille? Une chenille. Mais c'est quoi la différence entre une chenille et un ver de terre? Un ver de terre n'a pas l'ADN nécessaire pour devenir un papillon. C'est-à-dire qu'un ver de terre ne va jamais voler, à moins d'aller à la pêche, comme je dis. Là, il peut voler pour quelques secondes, juste avant d'être avalé. Mais en tant que chrétien, si vous voulez être riche pour Dieu, sachez que vous êtes maintenant une nouvelle création, vous êtes devenu une chenille qui a besoin d'être transformée par le renouvellement de son intelligence pour pouvoir développer et devenir un papillon et voler et puis arriver au sommet de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et c'est comme ça que la richesse de Dieu va se manifester en vous. Il faut que vous sachiez que vous êtes pardonné, vous êtes justifié, vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, vivez comme une nouvelle création. Donc, comment est-ce que vous devriez faire cela? Méditez la parole. Changez votre façon de penser. Pensez plus que vous êtes un ver de terre. Pensez que vous êtes une chenille qui est en train de se transformer en papillon. Amen. Troisième chose qu'on voit, et ça c'est important si on veut vraiment faire une différence, est de ne pas vivre pour lui-même, mais être riche pour Dieu. Vivez comme un agent de la réconciliation. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Le même passage dit ainsi, dès maintenant, verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout le monde dit le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous. Est-ce que ça c'est présent, futur ou passé? Il a mis en nous quoi? Qu'est-ce qu'il a mis en nous? La parole de la réconciliation. Savez-vous quoi? Quelqu'un qui va vivre pour lui-même, il s'en fiche de qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. Mais quelqu'un qui est riche pour Dieu, il s'intéresse à la, vraiment, pas juste à la vie dans ce monde, mais il s'intéresse à l'éternité de ceux qui l'entourent. Quelqu'un qui est riche pour Dieu regarde les autres, il pose la question, est-ce que cette personne connaît Jésus? Où est-ce que cette personne va passer l'éternité? Est-ce que cette personne est en paix avec son Créateur? Est-ce que cette personne, quand il meurt, est-ce qu'il va aller au ciel et passer l'éternité avec moi? Ou est-ce qu'il va être séparé éternellement à l'enfer d'avec son Créateur? Est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui se passera avec votre entourage? Si ça vous intéresse, c'est parce que vous êtes une personne riche pour Dieu. Si vous, vous dites, bon, ben, dans le fond, ce n'est pas de mes affaires, je suis content, je peux me reposer, je peux manger, je peux boire, je peux me réjouir, la vie est belle, mon nombril est le centre de l'univers. Posez-vous la question. Si vous voulez être riche pour Dieu, il faut vivre comme une nouvelle création, mais il faut vivre comme un agent de la réconciliation. Et quel privilège! Vous savez c'est quoi la réconciliation? Vous savez c'est quoi d'avoir deux personnes qui sont ennemies, qui ont eu une chicane, un problème, un différend, des choses qui ne marchent pas entre eux? La réconciliation, c'est de pouvoir rétablir la paix entre ces deux éléments, ces deux personnes. On sait que dans le monde naturel, ce n'est pas toujours possible d'être réconcilié avec certaines choses ou certaines personnes. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que ça prend, dans le cas de deux personnes, deux volontés qui s'accordent. Et si une personne dit « je ne veux pas », l'autre personne ne peut rien faire. Parce que la Bible dit « s'il est possible, et autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Des fois, ce n'est pas possible parce que les autres hommes ne veulent pas. Mais voilà, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on ne parle pas d'une réconciliation juste entre les hommes ou entre amis. On parle d'une réconciliation entre Dieu et sa création. La Bible dit que nous étions tous les ennemis de Dieu. À cause de notre péché, il y avait une ennemité entre nous et Dieu. On était les ennemis de notre Créateur, séparés d'avec lui. Mais Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Savez-vous, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Jésus-Christ a déjà pardonné tous les membres de la race humaine, passé, présent et futur. Son sacrifice a déjà payé le prix et tout le monde est déjà réconcilié. C'est comme des personnes qui ont des dettes à payer. Est-ce que vous avez déjà eu des dettes? Vous savez c'est quoi d'avoir une dette? Et vous savez des fois c'est quoi de ne pas être capable de payer la dette? Mais imaginez, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'occasion de régler une dette ou d'avoir quelqu'un d'autre le régler pour vous? Quelqu'un qui arrive, tu sais, j'ai à cœur de t'aider avec ça. Donc, il paye le prix. Savez-vous, ça serait merveilleux si le gouvernement, demain matin, déciderait que, bon, on va avoir une année de jubilé, on pourrait dire, on va canceller toutes les dettes de tous les citoyens du Canada, que ce soit les dettes privées ou quoi que ce soit, à partir de 27 avril, toutes les dettes de tout le monde vont être payées. Si vous avez une hypothèque, ça va être clairé. Si vous devez quelque chose sur une auto, ça va être clairé. Si vous avez quelque chose sur les cartes de crédit, ça va être clairé. Peu importe c'est quoi, si c'est une dette, ça va être réglé, clairé. Ça serait le fun, n'est-ce pas? Mais voici comment ça fonctionne. Le gouvernement décide cela et le gouvernement choisit 12 personnes à Drummondville. OK? 12 personnes à Drummondville qui vont être les représentants, ok, et qui vont faire le tour, parce qu'ils ne veulent pas passer l'annonce à la télévision ou à la radio, ils veulent que ça soit bouche à bouche, donc ils ont choisi 12 personnes de Drummondville pour apporter la bonne nouvelle à tous les citoyens que j'ai quelque chose à vous annoncer, que hier, le gouvernement a décidé de payer les dettes de tous les citoyens, et maintenant, c'est à vous d'aller faire ce que vous voulez. Choisissez les moyens qui vous semblent efficaces et convenables. Faites comme vous voulez. Mais allez dans tout le Canada et dites à tout le monde que leurs dettes sont cancellées. Combien de vous aimeriez être volontaire pour ce job? Ça serait le fun. Avez-vous déjà vu les choses à la télévision où les personnes vont gagner les gros montants et ils arrivent à la maison avec un chèque gigantesque et ils prennent la personne par surprise? Est-ce que vous avez déjà vu cela? Ils sonnent à la porte, ils cognent à la porte, ils ouvrent la porte et ils sont là avec un grand chèque. Vous avez gagné 10 millions. Et qu'est-ce que les gens font? Ils commencent à sauter. Ils crient, ils pleurent, ils fondent en larmes. Ou ils font toutes sortes de choses bizarres pour 10 millions. OK? Si on avait le mandat, 12 personnes ici avaient le mandat d'aller dire à tout le monde au Canada, vos dettes sont cancellées, vos dettes sont cancellées, vos dettes sont cancellées. Les gens seraient heureux. Mais savez-vous quoi? Jésus, il a choisi 12 personnes, n'est-ce pas? Il a choisi 12 hommes pour aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Allez dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Savez-vous quoi? C'est quoi qu'il a mandaté? Il a donné à ces 12 hommes le mandat d'apporter la parole de la réconciliation, la bonne nouvelle. C'est pas que les gens ont besoin d'aller à l'église. La bonne nouvelle, c'est que vous avez, si vous êtes assez sage, si vous priez assez longtemps, si vous lisez la Bible assez, vous serez capable d'aller au ciel. Non, c'est pas le message que Dieu nous a demandé de prêcher. Nous sommes les agents de la réconciliation. Tout le monde dit la réconciliation. Dieu nous a déjà réconciliés avec lui-même et notre mandat, c'est d'aller partager cette bonne nouvelle. Tu sais quoi? Jésus a déjà pardonné tes péchés. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de confesser avec ta bouche, croire dans ton cœur et le recevoir comme ton sauveur et ton maître et tu peux être sauvé. Combien de vous aimeriez être volontaire pour aller dire à tout le monde au Canada que leurs péchés sont pardonnés déjà? On lève la main, mais est-ce qu'on est prêt à le faire en commençant demain matin? Cet après-midi? Prochaine fois que vous êtes à la caisse, à l'épicerie, et tu vois que la caissière passe une mauvaise journée, est-ce que tu es prêt à semer une petite parole, dire, tu sais, dire quelque chose de bon, quelque chose avec joie, et puis peut-être semer une petite semence, n'oubliez pas que Jésus vous aime, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous êtes prêt si le Saint-Esprit vous demande de faire un gâteau pour votre voisin, d'apporter le gâteau, ou si, juste d'inviter quelqu'un d'aller jouer au golf, ou faire quelque chose pour tisser des liens avec quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, développer une amitié, et puis par la suite, présenter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur à cette personne? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Et en faisant cela, on va devenir quoi? Riche pour Dieu. Au lieu de vivre pour soi-même. Puis finalement, on va terminer avec ceci. Vivez comme un ambassadeur pour Christ. Vivez comme un ambassadeur. Si on veut être riche pour Dieu, il faut vivre pour Jésus. Il faut vivre comme une nouvelle création. Il faut vivre comme un agent de la réconciliation. Et il faut vivre comme un ambassadeur pour Christ. Verset 20 de notre texte dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez quoi? Réconcilié avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. J'aime beaucoup ce mot. Il y a bien des années, je pense que c'était 1988. Donc ça fait quand même quelques années. Combien d'années? 21 ans. J'ai eu cette révélation de ce mot. J'ai médité ce verset. Et même j'ai eu dans mon cœur de regarder dans le dictionnaire la définition du mot ambassadeur. Savez-vous c'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un ministre du rang le plus élevé, qui est au service d'un roi ou d'un prince ou d'un état, à la cour d'un autre prince ou d'un autre état, pour effectuer les affaires de son gouvernement. Je vais le répéter. Un ambassadeur, c'est un ministre du rang le plus élevé. Déjà, c'est bon. Savez-vous que vous êtes des ministres de la Nouvelle Alliance, que vous êtes les ministres aux yeux de Dieu? Vous avez une position royale, vous avez une position d'autorité, vous avez une position qui est vraiment une position d'honneur. Seulement dit, je suis ambassadeur. Savez-vous que les ambassadeurs, quand le Canada envoie un ambassadeur dans un autre pays, cet ambassadeur est respecté, n'est-ce pas? Respecté par notre gouvernement, respecté par notre peuple, on les envoie, ils nous représentent. Est-ce que l'ambassadeur va voyager à ses propres frais? Le gouvernement a promis de prendre soin de lui, n'est-ce pas? Un ministre du rang le plus élevé qui est au service d'un prince ou d'un État. Nous sommes au service du prince de la paix. C'est quoi notre État? Notre gouvernement, c'est le gouvernement du ciel. OK? Mais nous ne sommes pas à la cour de notre prince, de notre gouvernement. Notre cité à nous, c'est dans les cieux, mais nous sommes sur la terre. Donc, nous servons notre prince à la cour d'un autre. Nous sommes dans un pays étranger aujourd'hui. Nous ne sommes pas citoyens de la terre, mais citoyens du ciel. C'est pourquoi nous sommes riches pour Dieu. Tu m'en dis, je suis riche pour Dieu. Alléluia. Donc, c'est un ministre du rang le plus élevé au service d'un prince ou d'un État à la cour d'un autre. Pourquoi? Pour effectuer les affaires de son État. Je suis là pour effectuer les affaires du ciel à tous les jours. Tu sais quoi? Si l'ambassadeur du Canada donne un message en chef d'État dans un autre pays, ceux qui sont dans l'autre pays ne peuvent dire, mais pour qui es-tu, monsieur Joseph? Je te connais pas. Je veux pas écouter qu'est-ce que tu me dis. Non, les gens là-bas, ils savent que quand l'ambassadeur parle, il est le porte-parole de son gouvernement et que toute la puissance du gouvernement se tienne en arrière de sa parole. On va le dire ensemble. Toute la puissance du ciel se tient en arrière de mes paroles quand je parle au nom de Jésus. Parce que je suis ambassadeur pour Christ et parce que je suis riche pour Dieu. Amen. Il faut avoir cette conviction. Je suis ambassadeur pour Christ. Et tous les jours, on devrait se lever en disant, Seigneur, on doit checker avec le quartier général et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je suis ton ambassadeur. Est-ce qu'il y a un message à donner? Est-ce qu'il y a un corps qui a besoin d'être guéri? Est-ce qu'il y a une âme qui a besoin d'être sauvée? Je suis à ton service. Je suis ton porte-parole. Je suis riche pour Dieu. Amen. Combien de vous, vous êtes prêts à vivre pour Jésus? De vivre comme un agent de la réconciliation? Combien de vous, vous êtes prêts, au lieu de vivre pour soi-même, de vivre comme une nouvelle création et comme un ambassadeur pour Jésus-Christ? Amen. On va se lever debout. On va terminer là. Je voulais terminer au proche de 11h30, si possible, ce matin. Créer des bonnes habitudes. Alléluia. Mais ce matin, la réunion n'est pas terminée. En fait, la chose la plus importante s'en vient dans quelques secondes. Donc, je ne veux pas que vous débranchiez, je ne veux pas que vous soyez distrait, mais je veux que vous soyez à l'écoute de ce que l'Esprit Saint est en train de dire. Posez-vous la question aujourd'hui. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez ce matin? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vit pour soi-même? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est riche pour Dieu? Est-ce que vous vivez pour le repos, pour l'estomac, pour le divertissement, pour le plaisir? Ou est-ce que vous vivez pour Jésus comme une nouvelle création, comme un agent de la réconciliation et comme ambassadeur pour Jésus-Christ? Moi, je veux être riche pour Dieu. Et vous? Et moi, je sais une chose, que si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses dont j'ai besoin me seront données par-dessus. C'est pourquoi qu'au milieu d'une récession, je peux prospérer. au milieu d'une récession, vous pouvez prospérer. Pourquoi? Parce que vous êtes riche pour Dieu. Et vous ne vivez pas pour vous-même. Mais j'aimerais vous poser la question. À tous les dimanches matins, je pose cette question. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Dieu? Est-ce que vous êtes ici ce matin et vous avez la conviction que votre cœur est en règle avec votre Créateur? Posez-vous la question. Pour vivre en tant que nouvelle création, il faut être une nouvelle création. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Et si vous êtes ici et vous dites, mais moi je suis une bonne personne, je vais à l'église, je lis la Bible, je prie, sachez que ces choses-là ne sont pas suffisantes pour faire de vous une nouvelle création. La seule et unique chose qui peut faire de vous une nouvelle création dans Jésus-Christ, la seule manière de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, la seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. La parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, regardez-moi, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Jésus? Si vous partirez de cette bâtisse ce matin et votre cœur arrête de battre, savez-vous sans aucun doute que vous irez directement au ciel? Est-ce que vous êtes riche pour Dieu ce matin? Sinon, je vais vous donner l'occasion. Je vais compter à trois, je vais taper ma main. Et si vous êtes ici, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, mais ce matin, vous voulez que je prie avec vous. Vous voulez partir d'ici avec cette assurance que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes une nouvelle création, que vos péchés sont pardonnés et que vous allez passer l'éternité au ciel avec le Seigneur Jésus. J'aimerais que vous levez la main haut dans l'air. Je vais prier pour vous. Qui ici a besoin de donner sa vie à Jésus? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste levez la main. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai. S'il y a quelqu'un ici, vous avez la main. Sinon, on va prier encore ce matin. On va remercier le Seigneur pour ces principes que nous avons vus. Prie avec moi. Père Céleste, je ne veux plus mener une petite vie égoïste. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Mais je veux être riche pour toi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je prends une décision de continuer à vivre pour Jésus, à vivre comme une nouvelle création, comme un agent de la réconciliation et comme ambassadeur pour Christ. Merci Seigneur, je suis riche pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, mettons ces paroles en pratique. C'est-à-dire qu'en partant d'ici, on doit lever les yeux, on veut regarder. Seigneur, est-ce qu'il y a des jeunes autour de moi qui ont besoin d'amour? Est-ce qu'ils ont besoin de recevoir cette parole de réconciliation? Seigneur, ouvre les portes pour moi cette semaine pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Donne-moi une occasion favorable pour que je puisse prêcher Jésus. Prêchez pas simplement avec mes paroles, mais avec mes actes aussi. Qu'ils voient ton amour à moi. Que je sois une lettre vivante pour que les gens puissent me lire et te voir dans ma vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et n'oubliez pas, mercredi soir, 19h, 7h le soir, on est là pour les études sur la guérison divine. Venez nombreux. La semaine prochaine, venez nombreux aussi. Amenez des amis avec vous. Et je vous aime de tout mon cœur. Est-ce que vous êtes riche pour Dieu? Amen. On va le vivre dans sa plénitude.